France Culture, 18h22, l'actualité des industries culturelles et du numérique. Première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos chroniqueurs, Emmanuel Paquette de l'Express OSFS de France Culture et notre invité de ce soir, Rémi Rioux, patron de l'Agence française de développement. Alors, fin de semaine complexe, Emmanuel Paquette, pour la presse et sa vérification de l'information, avec l'arrestation vendredi soir de Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport de Glasgow, qui n'était pas le criminel escompté. Le Parisien d'abord, l'AFP ensuite et tous les médias en boucle samedi matin. Comment dire, un emballement médiatique.
Oui, un emballement médiatique sur lequel est revenu le Parisien amplement aujourd'hui avec un article titré « 5 sources pour une fausse piste ». Et puis les excuses du directeur de la rédaction du Parisien, déjà au lecteur, et puis à la personne qui a été suspectée d'être le faux Xavier Dupont de Ligonnès, qui a été donc arrêté en Écosse après avoir quitté Paris. Alors il faut savoir que le Parisien revient longuement sur son enquête pour se justifier, et il faut dire aussi que ses arguments tiennent plutôt la route, puisqu'ils ont eu 5 sources différentes pour avant d'écrire l'article, 5 sources qui n'avaient aucun rapport l'une avec l'autre, bien évidemment, qui est une des règles du journalisme, 5 sources qui ont confirmé l'information, comme quoi les empreintes données par donc la police écossaise confirmer l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Et du coup, ils ont relayé cette information, elle-même confirmée par l'AFP. Donc certes, un emballement médiatique, certes, la presse aurait sans doute pu et dû attendre, mais il se trouve que les sources, et donc plusieurs sources, se sont également trompées. Donc ce n'est pas forcément un procès de la presse en tant que telle, mais en fait une erreur d'instruction, dans l'instruction et dans l'enquête qui a été répercutée par la presse
de
en
manière
général.
Massivement un week-end où il n'y avait pas d'autres,
exactement,
pas beaucoup d'autres.
Et donc le plus gros scoop quasiment de l'année s'est vite transformé en effectivement en fake news pour le Parisien.
Zoé.
Non, moi ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est plutôt la manière dont chacun des médias qui a donc donné cette information comme une grande information, en plus la presse écrite est celle qui probablement souffle le plus parce qu'il y a des unes et il y a du papier imprimé, donc c'est toujours particulier et surtout quand quelques heures plus tard on a un démenti. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'espèce de pédagogie que chacun a fait. Il y a le Parisien qui s'est expliqué, il y a Libé qui a fait un peu la même chose, et inversement, il peut y avoir comme une espèce de contre-exemple BFM TV qui avait donc installer une édition spéciale avec vraiment très peu d'informations au moment où on avait cette information qui en réalité n'en était pas une, et qui a continué son édition spéciale pour essayer de comprendre ce qui n'avait pas marché, sans jamais en revanche mettre en question le fait qu'il l'avait relayé. Donc c'était un moment relativement intéressant aussi de voir comment l'information se construit, quelle est la hiérarchie en fait qu'on peut avoir dans certains médias entre où est-ce qu'on est dans l'informé, à quel moment on met l'informé en premier, où on met le fait devant du papier ou devant de l'audience à l'autre. Donc moi j'ai trouvé que c'était plutôt une espèce de beau panorama de ce qu'est la presse française et de la manière dont à la fois elle travaille et elle explique comment elle travaille. Donc pratiquement les démentis étaient encore plus intéressants que la manière dont finalement cette information a ou pas été donnée.
Alors information d'une certaine manière plus intéressante et surtout plus sérieuse, en tout cas confirmée jusqu'à présent, c'est l'attribution du prix Nobel de la paix à Abiy Ahmed, Premier ministre d'Éthiopie, récompensé Emmanuel Paquette pour son travail de paix avec l'Érythrée, le pays voisin.
Oui, en fait, c'est une double récompense. Une récompense déjà pour la politique intérieure menée en Éthiopie, puisque le Premier ministre qui a pris donc le pouvoir en 2018, comme vous le disiez précédemment, a depuis autorisé les partis d'opposition à revenir en Éthiopie, a amnistié plusieurs arrestations politiques qui avaient été faites par le précédent gouvernement, et a mis fin à une partie de la censure des médias qui avait lieu en Éthiopie. Donc ça, c'est pour la partie intérieure. Pour la partie extérieure, effectivement, il a mis fin à un conflit, enfin en tout cas mis fin, certains diront pas totalement et pas complètement, mais il a commencé à tendre la main à l'Érythrée, qui a pris son indépendance en 91 et qui a ouvert ensuite un conflit depuis 1998, donc c'est un conflit quasiment qui a duré 20 ans.
Plus entre de 80 000 morts à cause de violences frontalières.
Exactement, entre les deux pays. Alors maintenant, une ambassade éthiopienne a réouvert en Érythrée. Les communications téléphoniques ont été remises en état entre les deux pays, donc les familles peuvent à nouveau se parler, des familles qui étaient séparées, et un vol entre donc l'Éthiopie et l'Érythrée a même eu lieu, permettant à des familles de se réunir à nouveau. Donc tout ça est plutôt positif, mais il faut savoir que des tensions ethniques continuent tout le temps en Éthiopie, donc rien n'est vraiment réglé au niveau local en Éthiopie, et puis surtout il reste encore beaucoup de dossiers à pacifier avec l'Érythrée, notamment sur la gestion des ports, sur la mobilité entre les deux pays. Donc c'est un premier pas, mais seulement un premier pas. Donc on peut dire qu'avec ce grand prix vient vraisemblablement de grandes responsabilités, pour reprendre une phrase des super-héros.
De Spider-Man.
De Spider-Man, exactement. Et donc, c'est ce qu'a bien voulu notifier le Nobel de la paix, c'est de dire
un peu
le travail est fait.
Barack Obama l'avait eu, c'est-à-dire,
exactement.
Au fond, c'est pas pour le travail qui est fait, mais c'est plutôt un espoir pour la suite.
Voilà.
Donc, trop jeune, peut-être trop tôt, il a 43 ans.
43
donc,
ans.
Premier ministre d'Éthiopie depuis 2018, c'est quand même le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, l'Éthiopie, donc c'est important pour l'Afrique. Peut-être Rémy Rioux, une réaction, puisque vous êtes le directeur général de l'Agence française de développement. C'est des pays que vous connaissez.
Oui, moi je l'ai rencontré deux fois déjà. Il est venu à Paris l'année dernière, et puis on est allé avec le président de la République en mars en Éthiopie. Et donc oui, c'est une figure de réconciliation très étonnante. Hein. Vous n'avez pas mentionné que son papa est chrétien, sa maman est musulmane, il est Oromo, dans un pays dominé longtemps par les Tigréens. Et puis, pour vous, Frédéric Martel, c'est une figure de soft power. Hein. Le Premier ministre Abiy Ahmed, il a notamment, moi j'étais à Lalibela, vous savez, ces 11 églises creusées dans la roche, là, dans le pays Amhara. Il en fait un objet de réconciliation nationale, évidemment, ce patrimoine historique. Et puis, j'étais au palais du Jubilé. Alors là c'est étonnant. Vous vous promenez, puis vous voyez les chaussons d'Haïlé Sélassié à la place où on les a laissés le 12 septembre 1974, quand il a été enlevé. Donc, il y a ce mélange de jeunesse incroyable dans le pays le plus ancien du monde, en fait, jamais conquis. Le seul d'Afrique. Donc il y a un précipité là de quelque chose que le Nobel a récompensé.
Et pour je dirais presque l'anecdote, mais c'est presque un petit cadeau qu'on pourrait vous faire. Il se trouve qu'il a un prédécesseur, ce premier ministre d'Éthiopie, assez ancien, qui s'appelle Alfred Ilg. En fait, c'est un jeune ingénieur suisse qui était parti pour l'Abyssinie à 24 ans et qui, à cette époque-là, c'est des territoires un tout petit peu différents, mais va diriger les travaux publics, construit des maisons, des routes, des ponts, et devient le conseiller technique du roi Ménélique, qui le consulte même sur les questions de politique étrangère et qui le nomme premier ministre en 1880. Donc ça fait assez longtemps. Et alors ce qui est intéressant, c'est que depuis, on a découvert des lettres très nombreuses, c'est un livre complet que j'ai là, qui sont les lettres que ce premier ministre éthiopien a échangées avec Arthur Rimbaud. Et donc c'est assez beau de savoir que les premiers ministres éthiopiens parfois écrivent aux poètes. Peut-être que celui-ci aussi écrira à d'autres poètes et on verra si c'est ce qui se passe.
C'est les liens entre la France et l'Éthiopie qui sont très très anciens par la culture. Le même roi Ménélique, c'est lui qui nous a donné le terrain de l'ambassade de France à Addis, qui vous savez le plus grand du monde. On a, je sais plus, 40 hectares, qu'il a tracé lui-même comme ça dans une promenade à cheval.
Il dit voilà, les Français auront tout ça.
Exactement. Voilà. Un peu plus grand que les Italiens même.
Bien, on voit que l'AFD continue à s'occuper de nos territoires. Zoé Sfez, deux autres prix Nobel cette semaine. Alors là, c'est de littérature qu'il s'agit.
C'est de littérature, c'est une année donc particulière parce que l'Académie a donc remis deux prix à la place d'un. On en a largement parlé ici sur cette chaîne. Pourquoi ? On le rappelle parce que l'année dernière, juste avant la remise du prix Nobel de littérature, l'Académie avait été éclaboussée par un énorme scandale puisque le mari de l'une des académiciennes, qui est un Français, était accusé de viol et de harcèlement sexuel par 18 femmes, mais aussi de conflits d'intérêts. Donc, résultat des courses, tout le monde avait démissionné avant de pouvoir remettre ce prix. Entre-temps, une académie s'est reconstituée. Et alors, il était relativement intéressant de regarder ce que cette académie allait donner comme prix, en remettant deux, d'une part, et aussi parce que les deux derniers prix Nobel remis, à savoir celui de la Svetlana Alexievitch, biélorusse, en 2015, qui était un prix très journalistique, puisque c'est une journaliste qui a fait de romans à partir des enquêtes qu'elle avait faites, et puis l'autre, l'avant-dernier, avait été quand même remis à Bob Dylan et avait suscité beaucoup de débats, puisque nous sommes avec un parolier, un artiste dans cette grande nature, donc deux prix ont été remis.
Il avait été défendu dans cette émission, vous imaginez bien.
Il avait été défendu
dans
cette émission, il avait été attaqué dans d'autres émissions de cette chaîne, mais enfin, la question était aussi qu'est-ce que le prix Nobel doit sanctionner. Alors là, on revient avec deux Européens de l'Est, un homme et une femme. Alors, dans l'ordre, une femme, c'est donc la Polonaise Olga Tokarczuk, que vous connaissez bien, Frédéric Martel, vous connaissez ses livres.
Oui, en tout cas, Flight, c'est le titre anglais que j'avais lu, parce que quand on va en Pologne, ce qu'on a fait pour cette émission plusieurs fois, les gens tout le monde nous parlait d'elle, puisqu'elle était vraiment l'auteur national très lu, figure de l'opposition, d'ailleurs, c'est important ces jours-ci. Et en tout cas, ce roman Flight, qui a été traduit en français, elle avait eu déjà le Man Booker International Prize en 2018. Et donc, c'est une auteure érudite, hein, avec des références historiques, complexes, mais en même temps, souvent très courts, dans des petits chapitres, et tout ça est imbriqué, et ça crée un monde formidable, ce qui est tout à fait différent de Peter Handke.
Tout à fait, mais alors, ce qui est intéressant quand même avec elle, c'est que vous l'avez dit, c'est une femme, on pouvait s'y attendre avec une année où il y avait eu un scandale de cette ampleur. Elle est européenne, elle est effectivement polonaise, mais dans une opposition de gauche, à un moment politique qui est important pour la Pologne. Elle a fait une littérature très littéraire, et en même temps, c'est une auteure, entre guillemets, jeune, puisque son premier roman date de 2009, son œuvre a à peine 10 ans. Ça, c'est suffisamment rare pour être remarqué dans le Nobel. Et puis, effectivement, celui de cette année, c'est Peter Handke, auteur autrichien, auteur, alors lui, pour le coup, beaucoup plus connu. Certains avaient dit, j'étais sûr qu'il l'avait, ce qui était un peu absurde, mais c'est un auteur qui écrit depuis les années 70, auteur de romans, mais qui a un théâtre aussi extrêmement connu, notamment une pièce par les villages qui est très citée, et qui en même temps fait beaucoup polémique. Pourquoi ? Parce que c'est un auteur qui a défendu, alors qu'en plus on va dire que ses affinités politiques n'étaient pas tout à fait de ce côté-là, a défendu Slobodan Milošević et d'une certaine manière la politique serbe pendant la guerre. Et donc cet auteur qui est à la fois célébré fait l'objet de vives critiques, et particulièrement en France. Il y a une tribune dans Le Monde qui est parue avec Sylvie Maton et Olivier Py qui rappelle que il est absolument très clair dans ses intentions sur l'ex-Yougoslavie. Voilà, très clairement, il a publié d'ailleurs un livre qu'on avait un petit peu oublié, Voyage hivernal vers le Danube, la Save, la Morava et la Drina, publié en 96.
Oui, c'était un défenseur clair de Milošević. Alors après,
voilà. Donc quel symbole envoyer ? Alors, on est sur deux Européens de l'Est. On a d'une part un espèce de symbole d'ouverture ou de militantisme avec ce symbole, avec cet auteur-là, et de l'autre côté, on a cette mise en valeur de Peter Handke, dont les qualités littéraires ne sont absolument contestées par personne, mais qui en même temps, c'est une certaine vision de l'Europe à un moment donné où on traverse un Brexit. Donc il y a un espèce de message un peu ambigu avec ces deux Nobel de littérature, même si clairement les qualités littéraires des deux candidats, contrairement à Dylan par exemple, ou même Svetlana Alexievitch, que certains qualifient d'excellente journaliste mais pas particulièrement de bonne romancière, ne font pas débat.
Alors font pas débat, et en même temps Olivier Py avait fait une grève de la faim pour la guerre en Bosnie, donc c'est tout à fait légitime qu'il monte au créneau et qu'il soit un peu furieux. En même temps, littérature est la littérature. Est-ce qu'on récompense une œuvre ou est-ce qu'on récompense un parcours politique ? C'est un débat éternel. Pour Dylan, il y avait à la fois l'œuvre et le parcours politique, sans doute.
Ça, c'est pour
que
vous.
Pour Peter Handke. C'est une manière de réponse que vous avez dit.
C'est une manière finalement d'imposer
pour
votre avis.
Peter
comme
Handke, pour Peter Handke, il y a clairement l'œuvre, et il n'y a pas sans doute ce projet politique. Voilà, c'est ainsi. Dernière actualité peut-être de cette semaine, Emmanuel Paquette. Alors ça se passe à Hong Kong ce coup-ci. Google et Apple, on l'a dit en début d'émission, sont, cherchent à pacifier leur relation avec la Chine, parfois au mépris des Hongkongais.
Oui, au détriment des manifestants hongkongais, puisque les manifestations continuent. Et il se trouve effectivement que Apple a décidé de mettre fin à la distribution de l'application qui s'appelle donc HKMap.live, dont on avait parlé dans cette émission il y a quelques semaines, qui permet en fait aux manifestants de savoir où se trouvent les forces de police sur une carte qui est faite et qui est alimentée dynamiquement par tous les manifestants en temps réel. Alors il se trouve que devant l'ampleur des réactions, notamment des créateurs de cette cartographie sur Internet et puis des manifestants hongkongais, Tim Cook a dû prendre la parole, donc le PDG d'Apple, pour se justifier. Et il a dit qu'en fait, cette application permettait de géolocaliser directement des policiers et que ça mettait donc leur vie en danger. En réalité, cette application ne fait pas du tout ça. Elle montre simplement des réunions et des manifestations des forces de l'ordre, mais aucune personne n'est géolocalisée sur cette carte. Donc la justification paraît un peu faible, si ce n'est plus, concernant Apple. Et cette même semaine, c'était au tour aussi de Google de retirer de sa boutique d'application un jeu qui s'appelait donc la révolution de notre temps. Donc c'est un petit jeu de simulation des manifestations hongkongaises. Et là, Google l'a retiré simplement en disant que cette application permettait de faire de l'argent. Et même si cet argent était reversé aux manifestants, ils considéraient que c'était un détournement des règles de conduite de Google pour distribuer une application, qu'on ne pouvait pas s'amuser avec un jeu autour de manifestations. Et donc, ils ont tout simplement retiré aussi cette application. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la Chine arrive à dicter quand même son pouvoir à deux grandes multinationales américaines. Tout ça sur le fond, sur un fonds de négociation commerciale entre Trump et la Chine, qui a eu lieu cette semaine, qui a repris cette semaine, puisque Donald Trump essaye aussi de pacifier ses rapports avec la Chine. Donc on voit qu'aujourd'hui, il fait pas très bon de se mettre à dos la Chine quand on veut faire des affaires.
C'est en tout cas un dossier chaud pour eux, tout ce qui se passe à Hong Kong. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir une nouvelle fois, sans doute en novembre, avec une émission sur ces questions à nouveau. Zoé Sfès, pour terminer, on n'a rien dit, on a oublié l'homme de Vitruve, sur lequel on sera d'accord d'ailleurs, sans doute.
Probablement.
Plus que sur Bob Dylan, allons-y.
Non, mais moi aussi j'étais d'accord sur Bob Dylan, mais tel n'est absolument pas le sujet. Non, vous vous rappelez, nous en étions fait l'écho lors de notre grande émission dédiée à Léonard de Vinci. Vous le savez que 2019, c'est une grande année, après toute une série de grandes expositions en Italie pour célébrer le 500e anniversaire de la mort du maître. Une grande exposition doit débuter dans quelques jours à Paris, qui rassemble 160 œuvres du maître et autour de lui, avec énormément de prêts attendus en Italie. Et déjà, lors de l'élection de celui qui est désormais l'ex-premier ministre, président du Conseil italien, Matteo Salvini avait tenté d'utiliser, en tout cas, ses prêts pour faire pression politiquement sur ses rapports avec la France. Entre-temps, quasiment toutes les œuvres qui devaient être prêtées l'ont été, ou en tout cas sont en route pour Paris, puisqu'elles arrivent toutes en ce moment, ces jours-ci. Et là, on apprend que l'homme de Vitruve, donc ce célèbre dessin que vous connaissez tous, qui est conservé au Galleria dell'Accademia, qui est à Venise, et qui doit faire partie de cette exposition, eh bien, pour le moment, n'a toujours pas quitté l'Italie. Pourquoi? Parce que le tribunal administratif de la Vénétie a décidé, pour le moment, de le mettre sous scellé. En fait, il a été saisi par une association nationaliste proche de la Ligue du Nord, qui en tout cas ne veut pas que ce dessin quitte l'Italie, pour des raisons, alors théoriquement des raisons de vétusté, parce que ce voyage mettrait cette œuvre en danger. En réalité, évidemment, il y a un agenda politique derrière. Le ministre de la culture italien s'est lui-même étonné de la décision de ce tribunal, mais effectivement, il n'a pas de main dessus. D'ici là, en l'occurrence, d'ici le 24 octobre, on aura une nouvelle décision, puisque évidemment le gouvernement a fait appel. On n'est absolument pas certain aujourd'hui que ce dessin fera partie de l'exposition à Paris, mais là encore, on voit à quel point l'Italie, et notamment ses associations, aujourd'hui utilisent ce grand moment culturel français pour essayer de continuer à exister.
Voilà, une œuvre que tout le monde connaît, puisque c'est, vous savez, cet homme avec les bras...
Les mains tout autour d'un cercle.
Absolument. À suivre dans Soft Power, le directeur de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, c'est mon invité ce soir jusqu'à 19h30. Et dans un instant, Aude de Kéros, auteur de nouvelles géopolitiques de l'art contemporain, en avant-première de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, qui commence ce jeudi à Paris. Vous pouvez retrouver notre séquence actualité des industries culturelles et du numérique dans son podcast dédié sur le site de France Culture, page Soft Power. Mais juste avant tout ça, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, le nouvel album d'Ibrahim Malouf sur France Culture, Sens, avec un E écrit à l'envers, comme un sens à l'envers, avec un chiffre 3, sorti le 27 septembre. Avec ce morceau, Una Rosa Blanca, dans lequel il rend hommage au rapprochement entre les États-Unis et Cuba sous Barack Obama, des paroles qui sont d'ailleurs et étrangement incluses dans ce titre, vous allez l'entendre, qui paraissent, sous Donald Trump, bien oubliées, bien éloignées. Le trompettiste franco-libanais qui est en tournée hier soir à Toulouse, ce soir à Bordeaux, 19 octobre à Lille, 26 à Grenoble, le 27 à Lyon, le 16 et 17 novembre à La Rochelle, le 23 à Dijon, le 24 à Nancy, le 1er décembre à Marseille. Ibrahim Malouf sur France Culture.